L'heure des informations avec vous, Thomas Cluzel, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Quelques heures seulement après avoir jeté un pavé dans la mare du Brexit en critiquant vertement les propositions de Theresa May en la matière, Donald Trump a lancé aujourd'hui à la première ministre britannique « Quoi que vous fassiez, ça me va ». À l'évidence, le président américain n'a pas peur du ridicule. Nous appellerons sur place à Londres Mathilde Dehimi. Le bilan de l'attentat suicide qui a frappé aujourd'hui une réunion électorale au sud-ouest du Pakistan a été revu en forte hausse. Il s'établit désormais à 85 morts. Il s'agit du deuxième attentat visant un meeting électoral dans ce pays où les élections législatives doivent se dérouler le 25 juillet prochain. Explication dans le journal de Nabila Hamel. Au risque d'incarner jusqu'à la caricature, l'image du chef d'État africain accroché à son pouvoir, Paul Biya, 85 ans, a annoncé aujourd'hui sa candidature à un septième mandat à la tête du Cameroun. Valérie Crova nous dressera son portrait. Et puis avec Camille Magnard, nous reviendrons sur le nouveau plan de lutte antiterroriste dévoilé ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe pour essayer de distinguer ce qui le différencie des trois plans précédents. Les mauvaises manières de Donald Trump sont-elles encore de nature à nous scandaliser, rudoyer sans scrupules ses partenaires pour mieux les exploiter, dénoncer leurs faiblesses pour mieux en tirer profit par la suite? Toute cette géopolitique de l'intimidation, voire du rabaissement, semble à présent tellement éculée et surtout prévisible qu'on a peine à se dire déconcerté. Ce faisant, Mathilde Dehimi, on ne s'étonnera donc pas qu'après avoir lancé hier une attaque en règle contre la première ministre britannique, Donald Trump a vanté aujourd'hui la solidité des liens entre Washington et Londres.
Donald Trump a fini par s'excuser après près d'une heure de conférence de presse pour ses propos dans le Sun, accusant les journalistes du tabloïd de diffuser des fake news. Le président américain se savait attendu au tournant, notamment par la presse anglo-saxonne. Il n'a donc pas été avare de compliments envers Theresa May. L'accord commercial entre les deux pays est en bonne voie, dit-il.
Quand le Brexit sera effectif, peut-être que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais quoi que vous fassiez, ça m'ira. C'est votre décision. Assurez-vous juste qu'on puisse commencer ensemble, c'est tout ce qui compte.
Satisfaction du côté de Theresa May qui n'a cessé de vanter les atouts de l'économie britannique. Autre sujet sensible abordé par les deux chefs d'État, la Russie. Donald Trump doit rencontrer lundi Vladimir Poutine pour un sommet historique. Soutien de la première ministre britannique, à condition de parler aussi de l'empoisonnement des citoyens britanniques à un agent innervant d'origine russe, souligne Theresa May.
Je remercie le président Trump pour son soutien suite à l'usage effroyable d'un agent innervant à Salisbury et d'avoir, suite à ça, expulsé 60 agents de renseignement russes.
Donald Trump est longuement revenu sur le risque de prolifération nucléaire, notre principale préoccupation, dit-il. Et si Theresa May n'est plus la cible, le président américain a vertement critiqué, une fois de plus, la politique d'immigration d'Angela Merkel avant de s'envoler pour Windsor.
Et en effet, le président Donald Trump est désormais attendu par la reine Elisabeth II pour prendre le thé au château de Windsor, ce qui le tiendra accessoirement éloigné des manifestations organisées contre sa venue dans le centre de Londres. En Syrie, une cinquantaine de personnes, dont 28 civils et des djihadistes, ont été tués dans un raid de la coalition visant un réduit du groupe État islamique dans la province de Deir ez-Zor. Et puis après sa victoire hautement symbolique à Deraa, hier, le régime de Bachar el-Assad contrôle désormais plus de 60% du pays. Sauf que la prochaine bataille s'annonce ardue. Pourquoi? Parce que les deux secteurs qui pourraient rapidement se retrouver dans le viseur du pouvoir de Damas sont soumis à des luttes d'influence régionale. C'est le cas de la province de Kounetra, voisine de Deraa, aux portes d'Israël, mais aussi de la province d'Idleb, située, elle, dans le nord-ouest, à la frontière avec la Turquie. Sixième jour de manifestation à Bassora, en Irak. Les protestations contre le chômage et la vétusté des services publics ont été exacerbées par la mort d'un manifestant dimanche dernier. Une contestation sociale qui a poussé donc le Premier ministre à se rendre aujourd'hui dans cette grande ville du sud du pays, minée par la corruption et des années de violence. Au Pakistan, au moins 85 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat suicide lors d'une réunion électorale. Nabila Hamel, bonsoir.
Bonsoir.
C'est le deuxième attentat en réalité visant ainsi un meeting de campagne électorale à une semaine pratiquement d'élections législatives à l'issue incertaine.
Oui, une première attaque a fait 70 morts aujourd'hui au sud-ouest du Pakistan, non loin de la capitale du Baloutchistan. C'est clairement le rassemblement d'un candidat en campagne qui était visé. L'homme qui a succombé à ses blessures se présentait aux législatives sous l'étiquette du parti Awami du Baloutchistan. Ce matin, une bombe cachée sur une moto avait explosé près de Banu, dans le nord-ouest, cette fois au passage du convoi d'un autre candidat représentant une coalition de partis religieux. Il a survécu à l'attaque, qui a fait par ailleurs 4 morts et une quarantaine de blessés. Plus tôt dans la semaine, mardi, un attentat suicide a visé un meeting du parti laïque national Awami à Peshawar. Il a fait 22 morts, dont l'homme politique local. Contrairement aux autres attaques non encore revendiquées, celle de mardi l'a été par les talibans. Le Pakistan est régulièrement secoué par ce type de violence, mais ces pics de tension surviennent, vous le disiez, à quelques jours de l'échéance électorale du 25 juillet. En plus des attentats meurtriers, plusieurs cas d'enlèvement, des pressions, des menaces sur des médias et militants ont été rapportés. La situation est telle que l'armée pakistanaise a annoncé le déploiement de 370 000 soldats à travers tout le pays pour assurer le bon déroulement des élections. C'est 3 fois plus que lors du scrutin de 2013. Le climat politique qui entoure ces élections législatives est délicat. L'ex-premier ministre Nawaz Sharif, accusé de corruption, a été condamné il y a quelques semaines et ses partisans crient au complot politique. Nawaz Sharif était à Londres aux côtés de son épouse malade au moment du verdict, mais il s'est dit prêt à regagner son pays, quitte à entrer directement en prison. Son parti, le PMLN, est au pouvoir certes, mais il a un concurrent qui pourrait lui faire de l'ombre, le parti de l'ancien champion de cricket Imran Khan.
Merci Nabila Hamel. De nouveaux affrontements meurtriers au Nicaragua. 4 policiers et un manifestant ont été tués hier, ce qui porte à 260 le nombre de morts dans le pays depuis 3 mois maintenant qu'ont éclaté les manifestations. D'abord dirigées contre la réforme du système de retraite, finalement abandonnées par le pouvoir. Ces manifestations se sont ensuite recentrées pour réclamer le départ du président Ortega au pouvoir depuis 2007 et accusé d'avoir instauré une dictature. Lui est au pouvoir depuis 35 ans et à l'évidence, il compte bien y rester. Aujourd'hui, Paul Biya, 85 ans, a annoncé sur Twitter sa candidature à un 7e mandat à la tête du Cameroun, un pays où les combats sont devenus presque quotidiens entre l'armée et les séparatistes. Hier encore, 4 militaires et un journaliste ont été blessés, plusieurs assaillants tués lors d'une attaque contre le convoi du ministre de la Défense dans la région anglophone du pays. Valérie Crova, bonsoir.
Bonsoir.
En dépit de ce contexte délicat, donc, qui aurait pu être fatal à tant d'autres, Paul Biya, lui, réussit donc manifestement à se maintenir au pouvoir sans être véritablement inquiété.
Oui, et l'octogénaire ne voit pas d'inconvénient à briguer un nouveau mandat, lui qui est dans les arcanes du pouvoir depuis l'indépendance de son pays en 1962. La constitution du Cameroun ne lui interdit pas de se représenter pour la 7e fois consécutive. Il aura face à lui plusieurs candidats de l'opposition qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique, ce qui aurait sans doute été plus efficace pour ébranler le vieux président, d'autant plus que l'élection présidentielle se jouera à un tour le 7 octobre prochain. Les mauvaises langues disent que Paul Biya dirige le Cameroun depuis la Suisse, où il passe le plus clair de son temps, ce qui ne l'empêche pas de garder une mainmise absolue sur le pouvoir. Il a verrouillé l'accès aux postes clés et met en pratique le fameux adage « diviser pour mieux régner », ce qui explique sa longévité. Celui qui incarne la France-Afrique a connu tous les présidents de la 5e République avec lesquels il a toujours entretenu de bonnes relations. Il est vrai que nombreux sont les groupes français qui sont implantés au Cameroun, Bolloré pour n'en citer qu'un. Depuis 2 ans, Paul Biya doit faire face à un soulèvement de la partie anglophone du Cameroun qui abrite 20% de la population. Des attentats sont commis contre les forces de l'ordre, mais aussi contre les symboles de l'administration. Les Camerounais anglophones s'estiment marginalisés par le pouvoir central qui emploie la manière forte pour réprimer leur mouvement.
Merci Valérie Crova. Édouard Philippe a dévoilé ce matin un nouveau plan de lutte contre le terrorisme. Il prévoit notamment une réorganisation des services de sécurité. Camille Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce plan est en réalité le 4e en 4 ans et comme à chaque fois, on a un peu le sentiment quand même que le gouvernement en poste nous assure qu'il va améliorer mieux que tous ses prédécesseurs l'échange des renseignements et c'est ainsi que l'on en vient généralement à créer un nouveau niveau de coordination des services. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est la DGSI qui devient le bras armé de la lutte antiterroriste.
Oui, il s'agit
s'agit d'en finir avec les trous dans la raquette de notre dispositif antiterroriste dont on reparle à chaque fois qu'un attentat n'a pas pu être évité. Ce nouveau plan mise donc sur la coordination de tous les services engagés contre le terrorisme et la principale mesure mise en avant, c'est donc la création d'un état-major opérationnel placé sous la tutelle de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et qui aura une existence très concrète, tout le monde autour de la même table, c'est ce que nous explique le directeur de la DGSI, Laurent Nunes.
Elle va consister en la mise en place d'un état-major permanent qui réunira des représentants de 14 services, donc à la fois les services de renseignement, des services de police judiciaire et la gendarmerie nationale, donc qui seront présents en permanence ici à la DGSI et qui auront vocation à connaître de toutes les menaces de manière à pouvoir les examiner collectivement et décider des mesures les plus adaptées pour entraver ces menaces. Et l'idée, c'est de renforcer la fluidité de l'information sur les cas les plus sensibles, les menaces les plus graves et d'échanger vraiment en permanence, au quotidien, par des équipes qui soient physiquement implantées ici.
Alors une fois qu'on a entendu ça, il y a quand même une question qui vient tout de suite, c'est comment est-ce que c'est possible que dans un pays où le terrorisme frappe régulièrement depuis 4 ans et a fait 246 morts, un tel état-major opérationnel n'ait pas déjà été créé? Éric Dénessé dirige le Centre français de recherche sur le renseignement.
C'est vrai que ça prête un peu à sourire parce qu'on est en droit de se dire mais finalement qu'est-ce qui était coordonné ou qu'est-ce qui ne l'était pas avant. Il y a un peu cette propension à vouloir faire des effets d'annonce qui est un peu regrettable et on est en droit de s'interroger sur l'utilité de cette nouvelle structure. Pour le reste, effectivement, la coopération peut toujours s'améliorer, mais j'ai envie de dire c'est quand même beaucoup de bruit pour rien parce que finalement les avancées et les annonces sont tout à fait marginales, en tout cas sur ces aspects de coordination.
En fait, pour Éric Dénessé, la vraie nouveauté de ce plan d'action contre le terrorisme, c'est bel et bien la création du parquet national antiterroriste.
Merci Camille Manière. Et puis, puisque vous l'évoquiez donc à l'instant, l'annonce effectivement de la création de ce parquet national antiterroriste a surpris ce matin après avoir été annoncé une première fois, puis remis au plus tard. Le gouvernement a finalement confirmé sa création. Concrètement, cela signifie que la lutte antiterroriste ne sera plus confiée, comme c'était le cas jusqu'à présent, à une section du parquet de Paris, mais à un parquet spécifique. Et pourtant, nombre de magistrats n'y était pas favorable. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien, dit en substance Virginie Duval, présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, l'organisation majoritaire dans la profession. Elle répond à Florence Turm.
Actuellement, le parquet de Paris est organisé en cellules et la cellule antiterroriste traite la matière, mais peut être renforcée en cas de besoin en effectif d'autres cellules du parquet de Paris. Elle échange beaucoup avec les autres cellules du parquet, par exemple sur les questions de criminalité organisée, de trafic d'armes, parce qu'on sait que les liens sont extrêmement importants entre le terrorisme et la criminalité organisée. Et donc, on craint que si on fait un parquet à part, le parquet à part n'aura plus cette possibilité de fluidification et il y aura un fonctionnement plus rigide. Donc on ne voit pas l'intérêt, la plus-value d'un parquet qui serait distinct de ce qui existe actuellement. Créer un procureur national antiterroriste qui serait distinct du parquet de Paris laisse à penser qu'il y a eu un problème, ce qui n'est pas le cas. Il y a déjà des magistrats référents terrorisme dans chaque parquet et on peut peut-être développer cela sans qu'il y ait besoin de créer un parquet national antiterroriste. On a l'impression que c'est un effet d'annonce pour dire on lutte plus efficacement contre le terrorisme, mais il faut faire attention aux annonces comme cela, alors que là, en l'espèce, ça ne changerait certainement pas grand-chose.
Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, elle répondait à Florence Turm. La relaxe pour Martine Landry, la militante d'Amnesty International, âgée de 73 ans, était poursuivie pour avoir aidé en juillet 2017 deux migrants guinéens mineurs refoulés de France vers l'Italie. Martine Landry s'est dite émue et soulagée après cette affaire qui durait depuis un an. Comme chaque soir, direction le festival d'Avignon à présent, où le off ménage de superbes surprises en invitant les spectateurs dans un temps suspendu, oublier la chaleur de la ville et le vacarme des rues pour ne se concentrer que sur la représentation. Une expérience rare que vous avez vécue, Joël Gaillot, en particulier devant La Magie Lente, un texte de Denis Lachaud interprété par Benoît Giraud.
Certains acteurs, et ils sont rares, Thomas, traversent le feu lorsqu'ils gagnent la scène du théâtre pour y dire leur texte. Benoît Giraud est de ceux-là. Dans le minuscule théâtre Artifile, un des lieux repérés du Hof Avignonnais, le comédien en pull sombre et pantalon de flanelle gris attend le public à l'entrée de la salle. Peut-être est-il en train de méditer sur la représentation à venir. Elle sera au cordeau. Pas un mot, pas un geste, pas une intonation qui n'y soit essentielle. Monsieur Louvier, c'est le nom du personnage qu'incarne Benoît Giraud, a été déclaré schizophrène. Quand il prend le métro, il entend des voix d'hommes qui toutes affirment vouloir le sodomiser. Hallucination, lui soutient son psychiatre, avant qu'un autre médecin plus compétent convoque lentement les souvenirs enfouis du patient. Une psychanalyse, ça prend du temps. Le temps de formuler les choses, de mettre des mots sur l'indicible, de pouvoir regarder la vérité en face. Lorsqu'elle s'énonce enfin, cette vérité porte un nom. De l'âge de 8 ans à celui de 13 ans, Louvier a été violé par son oncle. Violé, ce sera le dernier mot prononcé dans ce spectacle saisissant qui plonge en eau profonde pour tenter de comprendre par le détail et le menu ce qui fait qu'un homme est un homme. Dans les rangs du public, personne ne bouge. Cette écoute absolue est très rare au théâtre. Elle est le signe qu'en face quelque chose se passe qui sort de l'ordinaire. Je vous quitte donc, Thomas, sur ce dernier rendez-vous. La magie lente démarre à 19h40, s'achève avant 21h, ce qui permet à la sortie de filer au musée Calvé pour y entendre ce soir à 22h Isabelle Adjani et Lambert Wilson au micro des fictions de France Culture. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Merci Joël Gaillot. Un mot rapide du temps pour demain. Ciel variable sur l'Hexagone. Les températures entre 12 et 19 degrés le matin, 23 à 34 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Jean-François Braun.